Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut
essayer. Des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, et 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi.
Et aujourd'hui, à l'international, on va parler de Bolloré, enfin reconnu partiellement coupable d'un accident de train au Cameroun. Puis on va aller du côté de la Sicile pour parler de l'interdiction de débarquer qui est faite aux migrants en plein G7 autour de l'immigration. Et puis de la situation en Irak. Au national, on parlera de Macron, mais aussi du plan secret élaboré par le gouvernement avant les élections pour contrer une éventuelle victoire de la droite.
De l'extrême droite même.
De l'extrême droite, pardon. Et on parlera également de Anne Hidalgo et de l'annulation d'un festival qui était en non-mixité. Avant de discuter un peu du grand festival de Cannes. Au local, on reviendra sur la mobilisation devant l'agence régionale de santé ce matin, de la grève de la compagnie Ouibus et d'un squat ouvert par les fachos ce week-end.
Alors, à l'international, on commence donc par cette histoire de G7. Oui, ce G7, vous savez, ce sommet international des 7 pays les plus riches et puissants du monde qui décident pour le reste du monde, donc, qui n'est pas un G8 cette année puisque la Russie est punie à cause de la Crimée. Donc, il y avait les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada. Et donc ce G7 avait lieu pendant une semaine en Sicile. Et pourquoi l'Italie? Eh bien, ça avait été choisi par Matteo Renzi à l'époque, hein, et c'est Gentiloni aujourd'hui en Italie. Pourquoi la Sicile? Eh bien, pour parler du problème, car c'est un problème de l'immigration. Et pourquoi l'Italie? Et pourquoi la Sicile? Car l'Italie, avec ses îles comme la Sicile ou autre bien connue, Lampedusa, est au premier rang des côtes qui accueillent tant bien que mal des dizaines de milliers de migrants chaque année, quand les bateaux de fortune des migrants arrivent à les atteindre. Rappelons que 2016 est un triste record. Plus de 5000 migrants sont morts en mer Méditerranée. Et 2017 est très largement parti pour battre ce record. Autre exemple, ces dernières semaines, il y a eu une hausse spectaculaire du nombre des opérations au large de la Libye, donc proche de Lampedusa et de la Sicile. Plus de 50 000 personnes ont été secourues depuis le début de l'année, soit 40% de plus que l'an passé à la même période. Eh bien, grâce au G7, pendant une semaine, le débarquement des réfugiés en Sicile a été purement et simplement interdit. En conséquence, les navires des ONG se sont vus contraints de débarquer dans des ports italiens beaucoup plus lointains, dans des conditions très difficiles, très problématiques, quand ils ont réussi à débarquer et à ne pas faire poireauter dans des prisons gonflables en pleine mer des centaines voire des milliers de migrants en attendant que le G7 se termine. Et pendant ce temps-là, les puissances impérialistes de ce monde, responsables en grande partie du chaos qui règne dans les pays d'où les migrants viennent, eh bien discutent du problème migratoire.
Allons maintenant au Cameroun, où plus de 6 mois après l'accident de train des AKA qui avait fait officiellement 79 morts, et plus de 600 blessés, le premier procès contre la Cameroun Railways, Camrails pour les intimes, s'est ouvert le 17 mai au tribunal de première instance de Douala, capitale économique du Cameroun. Initialement prévu pour débuter lundi, il s'est déjà renvoyé au mercredi pour une indisponibilité de la juge, mais aussitôt, il a été renvoyé de nouveau le vendredi pour examiner la requête d'irrécevabilité de la plainte pour et de incompétence du tribunal déposée par les avocats de la défense de Camrail. Mais penchons-nous un peu sur cette fameuse entreprise qu'est Cameroun Railways. Pas besoin de sortir la loupe pour constater que c'est une filiale du titanesque tentaculaire groupe Bolloré. Et oui, même au Cameroun, Bolloré fait des siennes. Grâce au rachat de vieilles entreprises coloniales françaises et à la privatisation d'une part importante du patrimoine économique national, le groupe Bolloré est devenu un acteur incontournable dans le tissu économique comme dans la vie politique du Cameroun. Mais revenons à cette catastrophe. La question du pourquoi et comment s'est déroulé les faits sont sur toutes les lèvres des familles des victimes. L'enquête établit la responsabilité de la société dont Bolloré est actionnaire à 80% dans le déraillement du train Intercity numéro 152 car elle n'aurait pas respecté certaines règles de sécurité. Le déraillement du train s'est produit le 21 octobre à l'approche de la gare des AKA, centre, entre Yaoundé et Douala, 96 km/h sur une portion de ligne limitée à 45. La vitesse excessive est la cause principale de l'accident de train qui a fait officiellement 79 morts et 600 blessés, comme on a dit plus au début. Donc il faut savoir que les points techniques s'accumulent, mais aucun des avocats de la défense de la compagnie ne parle des victimes. Le problème pour moi, c'est que Camrail ne semble pas être consciente qu'elle est la principale responsable. J'ai vu son directeur général, qui est plus soucieux des expertises techniques et de la recherche de mon épouse, s'offusquait Monsieur Thomas, Maître Thomas Dizaké, qui a saisi à 3 reprises par courrier Vincent Bolloré en personne sans jamais avoir obtenu de réponse. Pour Maître Michel Vouken, le procès actuel en cache 2 autres. Celui de la justice par rapport à elle-même et celui de la finance contre les droits humains. Aujourd'hui, la justice recherche une veuve et un orphelin, mais ce procès est aussi celui du capitalisme et d'une certaine France contre les pays africains. Quand un conducteur dit qu'il ne peut pas démarrer et qu'il n'a pas de frein, qu'est-ce qui oblige des gens à mettre les trains en route malgré cette défaillance ? Tout simplement parce qu'il y a le tableau de bord financier, trancha-t-il. Mais cette info, rassurez-vous, vous ne la trouverez pas en France, car bon toutou de Macron, et vu que c'est Bolloré qui fait les médias, cette info restera qu'une histoire de noir dans un pays lointain d'un continent sous-développé qu'est l'Afrique noire. Les intérêts sont saufs, pas ébruités, pas d'explication, les années Yabon ne sont pas si loin.
Alors, on enchaîne sur une autre situation bien triste, l'Irak. L'Irak, pauvre Irak, pauvre peuple irakien. Ça n'en finira donc jamais d'être le terrain de jeu des différentes puissances. États-Unis en tête, l'Arabie Saoudite, la Turquie, puis Daesh, l'Iran, le Hezbollah et aujourd'hui les milices chiites. Hein, l'Irak qui a eu Saddam Hussein en dictateur pendant presque 30 ans, en passant par 2 guerres dites du Golfe, dans les années 80, puis en 1991, des massacres récurrents de Kurdes au nord, de chiites au sud, puis l'invasion américaine, encore en 2003, qui renverse Saddam Hussein, mais qui instaure le chaos et favorise l'émergence de Daesh. Rappelons peut-être que les principaux cadres de Daesh en Irak, aujourd'hui, sont issus des cadres de l'armée de Saddam Hussein. Depuis la chute de ce dernier, les différents gouvernements chiites installés par les Américains sont plus préoccupés par la corruption et leur maintien au pouvoir que par la résistance à la percée fulgurante de Daesh, de Mossoul jusqu'à Tikrit. Depuis l'été 2014, c'est un véritable bras de fer politique entre les directions politiques et religieuses des chiites d'Irak. L'Ayatollah Sistani, pour rappel ou information, les ayatollahs sont les plus hautes autorités cléricales chiites. Donc cet ayatollah, le plus respecté des chiites du sud de l'Irak, défie l'actuel pouvoir irakien et le défie encore aujourd'hui en appel à la mobilisation populaire. Alors qui sont ces milices chiites qui font, elles aussi, aujourd'hui régner la terreur en Irak ? Elles portent des drapeaux inspirés de la bannière du Hezbollah libanais et sont entraînées par ce dernier, revendiquant largement leur proximité avec le commandement des troupes de choc des gardiens de la révolution en Iran. Alors la récente réélection du dit modéré Rouhani n'y changera rien, hein, Rouhani à la présidence de l'Iran, puisque les gardiens de la révolution ne rendent compte qu'à leur hiérarchie, dont le chef suprême est le guide Khamenei, un ayatollah et non un vulgaire président élu. Alors ces milices chiites, elles sont coupables de nombreuses exactions et de très graves exactions lors de l'expulsion de Daesh hors de Tikrit en 2015 et de Fallujah en mai 2016. Et elles ont été intégrées en partie aux forces armées irakiennes, mais gardent une certaine autonomie. Ils représentent aujourd'hui entre 100 000 et 150 000 combattants, quand l'armée irakienne en compte 200 000. Ils participent très largement aux interrogatoires des réfugiés ou des dits réfugiés de Mossoul, sur lesquels l'armée a des doutes, et ils ont une définition bien plus large de ce qu'est un collaborateur de Daesh, définition bien plus large que celle de l'armée régulière. Ils contrôlent aujourd'hui beaucoup de zones, des zones au nord, des zones à l'ouest de l'Irak, à majorité sunnite. Et c'est bien là également le problème. Alors pour conclure sur ces milices chiites, et selon des témoignages de nombreux Kurdes du Kurdistan irakien, après la guerre contre Saddam Hussein, après la guerre contre les militaires américains, après la guerre contre Daesh, il faudra ensuite la mener contre les milices chiites. Pauvre Irak, pauvre civil. Et encore un grand merci à l'impérialisme américain, entre autres, pour le chaos qu'il fait régner en Irak depuis des décennies.
Voilà, merci camarade, autant heureusement qu'on t'a pour savoir un peu ce qui se passe en Irak. Parce que c'est pas les médias bien de chez nous qui nous présenteraient la sauce ainsi tournée. D'ailleurs, ces mêmes médias, pour faire semblant d'être autre chose que les chiens de garde de la bourgeoisie française, les médias qui ont donc créé et porté au pouvoir Macron premier, continuent de se récrier mollement contre la propension de leur marionnette à vouloir tout contrôler concernant sa communication. Alors malgré ce terrible danger pour la liberté d'expression, on peut faire confiance au Monde, parmi tant d'autres, pour nous expliquer, dixit, que le néophyte a fait un sans faute à l'international. Loin des réalités politico-économico-guerrières, comme la leçon et les menaces de Trump aux membres de l'OTAN, qui lui doivent donc plein de thunes, contre la déculottée imposée à la COP21, à la 22, à la 23 aussi, et peut-être même à toutes les autres, loin de la situation en Ukraine, en Syrie, en Irak, loin des réalités donc, la presse et la radio, comme France Turcule ou mieux France Intox, plutôt que de célébrer la déroute de la diplomatie française, préfèrent nous éclairer sur la passionnante et virile poignée de main Macron-Trump et sur les trésors de Russes déployés par Macron la Baudruche pour inviter Poutine le Grand à Versailles. Quelle obséquiosité chez nos grands journalistes qui s'évertuent à nous enfumer en commentant le courage héroïque des phalanges macroniennes telles les hoplites de Marathon qui ont blanchi les mâchoires titanesques du grand Ricain. Quel abaissement quand sur la Versaillade qu'ils nous servent, on masque le retour à la politique soumise de Sarkozy face à la Russie, où les contrats priment sur les beaux idéaux, et qu'on nous sert le beaucoup politique alors que Versailles, c'est Thiers, c'est Bismarck, c'est la défaite du peuple. Macron a fait un sans faute, on pourrait même aller plus loin, c'est un sans rien du tout. Il marche Macron, il court même et serre des pognes. Mais quand sa voisine Merkel a l'honnêteté de nous dire que c'est la merde, que Ricain et Russe, que tous les impérialismes ont grave les crocs et se construisent des forteresses au Kachapka ou en Polynésie pour échapper à la guerre généralisée qu'ils promeuvent, notre Macron, solaire, puissant, transparent, de sa main incarnatrice, nous rassure. Tout va bien, le chef est là.
Lol.
Et oui, Macron nous a quand même sauvés, hein. Il faut quand même le rappeler. Il y a quelques semaines encore, tout le monde tremblait de l'élection potentielle de Marine Le Pen. Heureusement, le PS avait prévu le coup. Donc selon un rapport publié dans l'Obs, le gouvernement PS avait effectivement prévu un plan secret en cas d'élection de Marine Le Pen. Le but avoué, assurer la sécurité de l'État. Bon, quand on parle de sécurité en général, il faut se méfier. Empêcher la cession au pouvoir d'un parti aux accointances néo-nazis. Pas tout à fait. Le but n'était pas d'empêcher Le Pen d'entrer en fonction, mais d'écraser les manifestations de gauche contre sa victoire, imposer un état de siège et forcer une cohabitation Le Pen-PS. Les notes publiées par l'Obs révèlent quelques citations sans équivoque de hauts responsables du gouvernement. Je cite « Personne n'ose imaginer ce que sera le lendemain du deuxième tour si Marine Le Pen l'emporte. Un embrasement s'annonce. » Ou bien encore, les stratèges qui ont conçu ce plan B anticipent qu'au lendemain de la victoire du Front National, le pays risque de se retrouver au bord du chaos. État de sidération, manifestations républicaines, mais surtout violences extrêmes, notamment de la part de l'ultra-gauche. Ou bien cette note du renseignement déjà citée par Le Parisien. Je cite, « Des mouvements d'extrême-gauche plus ou moins implantés chercheront sans nul doute à organiser des manifestations dont certaines pourraient entraîner des troubles sérieux. » Le plan B n'avait jamais été écrit noir sur blanc, mais tout était fin prêt. Le plan incluait un quadrillage policier en vue de maintenir la force, de maintenir par la force les manifestations de gauche, mais également un montage crypto-constitutionnel prévoyant le refus du Premier ministre Bernard Cazeneuve de démissionner. Un véritable coup d'État en bonne et due forme où le gouvernement PS aurait tenté d'imposer une dictature militaro-policière en France. Le tout avec une Le Pen fraîchement élue en tête d'État, la tête de l'État et des armées. Dans la continuité de l'état d'urgence, prolongé en permanence depuis les attentats du 13 novembre, le projet rapporte l'Obs aurait signifié l'usage maximal de ses pouvoirs afin d'imposer un état de siège et suspendre de manière permanente le fonctionnement normal de l'État. À l'intérieur de l'appareil d'État, le refus de Cazeneuve de démissionner devait geler la situation politique. Dans un premier temps, il était prévu qu'au second tour de la présidence de la présidentielle, le chef du gouvernement, ne remettant pas sa démission, certes le maintien en poste du Premier ministre est contraire aux usages républicains, excusez-moi, mais sa démission n'est en rien une obligation constitutionnelle. Donc le Parlement serait convoqué en session extraordinaire. Attention, ordre du jour, la crise nationale provoquée par les violences qui ont suivi le scrutin, afin de se voir demander un vote de confiance. Ce gouvernement pseudo-constitutionnel devait durer au moins jusqu'aux élections législatives, à supposer que les nouvelles autorités auraient permis le déroulement normal des législatives. Bref, cela aurait été la suspension la plus grave des procédures démocratiques en France par les forces de sécurité depuis la guerre d'Algérie, quand des officiers partisans de l'Algérie française ont lancé un putsch à Alger en mai 1958. Suite à cet article et les révélations totalement what the fuck, on observe pourtant un parfait silence médiatique. Le sujet relève pourtant des questions de la plus grande importance. Dans quels autres cas que l'élection de Le Pen, la police et le renseignement pourraient-ils imposer une suspension de la Constitution et un état de siège? Et si le ministère de l'Intérieur traite de menace intolérable toute manifestation de gauche où les violences pourraient être commises, prépare-t-on des opérations similaires pour réprimer des manifestations contre les politiques d'austérité et de guerre de Macron? La police pourrait-elle répondre à l'exercice du droit de grève ou de manifestation inscrit dans la Constitution en imposant une dictature? Rien n'est moins sûr. Un big up, cela dit, aux dirigeants du PS et aux journalistes de l'Obs pour avoir tenté de minimiser l'importance et la dangerosité du montage imaginé par le PS. Tout cela était constitutionnel. Ils auraient remis le pouvoir au nouveau gouvernement, bien entendu, immédiatement après les législatives, blablabla. L'Obs conclut par l'expression « une parenthèse inédite dans l'histoire de la République ». Bref, un peu comme la République de Vichy. Mais ouf, Marine Le Pen n'a pas gagné et le PS ne s'est pas maintenu au gouvernement. Pas de coup d'État, à part Macron et GG à l'intérieur, en fait, si.
Franchement, mais ils sont vraiment parano, hein, au PS. Hein. Il n'y aurait pas eu de manif après Le Pen, franchement, ce serait bien passé.
Non, mais surtout que, en fait, le principal argument, c'est les violences éventuelles de l'ultra-gauche. Pour... C'est pas du tout le fait que l'extrême-droite arrive au pouvoir. Le problème, c'est les violences que ça pourrait entraîner du côté de l'ultra-gauche qui justifierait un tel coup de force politique.
Et ils disent même pas que l'ultra-gauche, ils disent la gauche, les citoyens et l'ultra-gauche.
En tout cas, ils sont bien préparés au cas où, ça, faut qu'on l'ait bien en tête quand même. Enfin,
voilà.
Même si on ne prévoit rien derrière. Hein, mais, bon.
Mais nous, on est mieux préparés.
Ouais, carrément, ouais. Ouais. Vous êtes morts.
Et donc, après ce beau barrage républicain du second tour de l'élection présidentielle, grâce auquel le plan B n'a pas eu lieu, on a un nouveau beau barrage républicain ces 5 derniers jours, mais cette fois contre des antiracistes. Le festival afroféministe européen Nayan Sapo a fait l'objet d'attaques successives de l'extrême droite d'abord, mais ensuite de la mairie de Paris et d'organisations soi-disant antiracistes, la LICRA et SOS Racisme.
De l'extrême droite donc.
Donc, c'est toujours les mêmes hein, sur les sujets comme ça.
Ce festival est organisé du 28 au 30 juillet à Paris par le collectif WASI, collectif afroféministe basé à Paris. Donc je vous laisserai regarder vous-même le programme, mais pour vous donner un avant-goût, l'ouverture s'intitule « De la marge au centre, nounou, femmes de ménage, aide-soignante, résistance face à l'exploitation au travail », ce qui a l'air, ma foi, très intéressant. Et donc, si cette ouverture est ouverte à tous, ce qui défrise tous ces braves gens, c'est qu'il y a, dans le cadre de ce festival, des ateliers organisés en non-mixité.
Ouh là 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 !
En non-mixité, donc avec plusieurs non-mixités différentes, certaines entre femmes noires, certaines entre femmes racisées, certaines entre hommes et femmes noires. Et donc, on a d'abord le bien connu forum Geek 18-25 ans de jeuxvideo.com qui voit naître de belles mobilisations d'extrême droite raciste et sexiste geek et la plateforme Discord qui ont organisé une attaque en règle sur les réseaux sociaux de ce festival en le décriant partout comme un festival interdit aux blancs.
Et, c'est ça.
Découverte sur le plateau, attention.
Donc ces révélations du forum 18-25 ans ont été reprises immédiatement par Valéran de Saint-Just, le trésorier du Front National, qui s'empare du sujet vendredi matin en parlant d'un festival interdit aux blancs dans des locaux publics. Anne Hidalgo doit s'expliquer. La LICRA relaye aussi le festival interdit aux blancs avec un beau Rosa Parks doit se retourner dans sa tombe, ils osent quand même, le combat entier.
Effectivement, les entendants, ouais, il y a moyen.
Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se précipite dessus dans une série de tweets. Elle demande l'interdiction du festival, annonce qu'elle va saisir le préfet de police en ce sens, qu'elle se réserve la possibilité de poursuivre les initiateurs de ce festival pour discrimination. Donc, à raison, l'animateur de Français de souche, Pierre Sautarel, dimanche, se réjouissait sur Twitter qu'Anne Hidalgo et la LICRA aient relayé les révélations de Français de souche. Et on a enfin SOS Racisme aujourd'hui qui a pondu un beau communiqué en qualifiant le festival de, provocation, interdisant l'espace aux hommes et aux personnes qui ne seraient pas
petits hommes.
Malteuses. Un festival qui serait une faute. Enfin bon, on va pas trop faire de la pub. Ah oui, il qualifie quand même de novlangue l'intersectionnalité, l'afroféminisme racisé, antiracisme politique. Voilà, voilà. SOS Racisme. Bref, en fait, ce qui est con pour eux, c'est que de toute façon, il n'y a aucun moyen d'interdire le festival, puisque les ateliers, enfin, les événements ouverts à tous sont organisés dans les lieux publics. Et les ateliers non mixtes se tiendront ailleurs dans un cadre privé. Et par contre, cet épisode montre bien l'alliance objective de l'extrême droite et de la gauche prétendue antiraciste lorsqu'il s'agit de luttes antiracistes autonomes menées par les premiers concernés. C'est pas leur coup d'essai, puisqu'ils ont déjà essayé de mettre des bâtons dans les roues à l'organisation du camp d'été décolonial, à des groupes de parole non mixtes à l'université Paris 8 et à d'autres que j'oublie, je pense. Et on rappelle donc que la non-mixité ou la mixité choisie n'est pas une discrimination, mais un outil politique pour les opprimés pour construire leur lutte de manière autonome, créer des espaces bienveillants où ils ont véritablement la parole, contrairement à finalement tout le reste des espaces de la société capitaliste, patriarcale et raciste où les hommes blancs, riches et hétérosexuels concentrent le pouvoir et la parole. D'ailleurs, le rassemblement annuel du Front National où... les initiatives identitaires et fascistes qui fleurissent de plus en plus, on va en parler tout à l'heure, notamment à Lyon, ne suscitent pas les mêmes angoisses chez la LICRA ou Anne Hidalgo.
Et dans le régime des festivaliers qui défilent connement, eh bien, cette année encore, dans la belle ville de Cannes, qui vit la victoire d'Hannibal Carthaginois, l'internationalement renommé Festival de Cannes, Festival de cinéma, sévit une fois de plus déversant ses myriades de strass et de paillettes, de stars et de pognon sur fond de tant de cerveaux disponibles. Alors que la France, patrie des frères Lumière, inventeurs du cinéma, s'est mise en marche, c'est tout entière qu'elle semble resplendir sur cette élégantissime montée des marches, justement, tapis rouge expédiant les étoiles au firmament du 7e art. cosmique, oui, le festival, on le sait, est le lieu de toutes les provocations, de toutes les transgressions. Souvenez-vous des starlettes sur la croisette qui heurtaient les bigotes et la vertu en paraissant nues sur les plages et sur les tabloïdes, libérant le corps de la femme des kilos superflus et autres varices pour, dans le culte de la jeunesse innocente, célébrer ce corps vibrant et beau, beau à vendre, beau à exploiter, tels les Marilyn et les Jan Seberg, tel cet étalage de seins et de fesses, de costumes très chers qui soulignent le jeu d'acteur, canonise la vie, la vraie, celle qu'on ne croise pas à Auchan. Ce festival de Cannes, donc constellé de vedettes comme un rocher en pleine mer de guano, c'est l'univers qui se mire dans le flot tumultueux de la création. Aujourd'hui encore, il est à l'avant-garde de l'image précédant de ses marches pourpres, le pouvoir capitaliste et ses bottes non moins teintées de rouge. En témoigne ce happening fou de la ministre de la Culture israélienne bravant le politiquement correct et les droits de l'homme avec sa robe hautement couturée. Avec sa robe hautement culturée, petit clin d'œil discret à l'oppression de tout un peuple. La colonisation donc a bravement monté les marches, importunée à peine par les flashs BA du journalisme d'investigation massivement présent sur place. Pedro Almodovar, qui préside Tel Janus, ce festival d'art, a d'ailleurs défrayé la conique, fidèle au soufre coutumier de ce grand rendez-vous, en nous montrant successivement son côté gonflé puis dégonflé. Car d'emblée, il avait exclu des Palmes d'Or, Triomphe du César, sur ce monstre qu'est le public, les deux films produits par Netflix, au motif qu'ils ne sortaient pas en salle de cinéma. Rendant service ainsi d'ailleurs à l'exception culturelle française. Mais devant le tollé de Thierry Frémaux, qu'on connaît bien à Lyon puisqu'il se revendique comme l'un des fondateurs de Radio Canu, qui a invité la grosse boîte américaine, appuyé par des membres du jury comme Agnès Jaoui, Pedro a prétexté une erreur de traduction sic et a dit qu'en fait tout allait bien. Netflix, c'est de l'art aussi. Et puis, il y a eu cet oligarque russe qui vient d'acheter 15% de toutes les salles russes et qui adore le cinéma français. Et puis, il y a eu le film en VR de Iñárritu, avec du vrai sable mexicain, qui nous immerge dans une tragédie quotidienne, plus vraie que nature, moins vraie cependant que les jeunes migrants morts en se cachant dans la gare juste à côté de Cannes La Bocca. Et puis, il et elle nous feraient presque croire que le Festival de Cannes n'est pas une vaste entreprise industrielle de lavage de cerveau. Et il et elle nous feraient presque croire que c'est un événement populaire. Et ça, c'est du grand cinéma.
Et il est 19h28, on est toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
On va passer au local avec une grève chez les salariés et conducteurs Ouibus à Lyon, donc à la gare de Perrache, qui se sont mis en grève suite à la revente de leur service, donc qui est géré actuellement, qui est géré par SNCF C6, filiale de la SNCF, à Fort. Donc voilà, c'est le problème de la sous-traitance, c'est le problème des effets désastreux de la loi Macron, c'est le car low cost, et du libéralisme des politiques capitalistes en général. Et voilà, donc les salariés sont donc revendus comme un peu comme des esclaves, comme des travailleurs quoi, à une filiale qui les paiera dorénavant 600 € de moins par mois. 600 € de moins par mois, et en plus on les oblige à démissionner de leur entreprise actuelle, donc c'est une obligation. On leur donnera une prime de 6 000 €. Donc 6 000 € face aux 600 € mensuels en moins, ça fait 10 mois à tenir et puis après c'est la dèche. Ces salariés qui passent 4 jours hors de chez eux parce que c'est des 8 heures de trajet aller, 8 heures retour, et donc qui se sont mis en grève pendant 3 jours et demain ils cessent la grève. Mais ayant manifesté leurs revendications à la direction, ils attendent un peu des nouvelles et envisagent éventuellement de nouvelles actions en fonction de la suite. Voilà, on fait très très vite parce qu'on est un peu à la bourre avec le rassemblement de ce matin.
Oui, devant l'ARS, il y avait donc différents collectifs de pédopsychiatrie et syndicats, CGT Vinatier, CGT Saint-Jean-de-Dieu, Sud Saint-Jean-de-Dieu, d'hôpitaux psychiatriques un peu dans toute la région Rhône-Alpes qui se retrouvaient ce matin devant l'Agence régionale de santé pour contester, pour essayer d'obtenir plus de moyens parce que la situation est hyper compliquée dans ce domaine. Donc on écoute un petit reportage qu'on a fait ce matin là-bas.
S'il vous plaît, La délégation est montée, donc il y a quelques minutes. Aujourd'hui, tous ensemble, on est là pour dire non à la politique qui est mise en place depuis des années et à celle qui s'applique et qui va s'appliquer. On n'a rien à attendre de ce qui se passe actuellement. Mais ce qui est important, je pense, c'est qu'on organise tous ensemble. D'abord, avant peut-être de l'organiser physiquement dans la rue massivement, c'est le refus intellectuel de cette politique.
Dans cette position-là, voilà.
Du coup, bah, moi je suis infirmière à Saint-Jean-de-Dieu. Je viens parce que bah, déjà on constate une baisse des moyens et des effectifs depuis un certain temps. Moi, ça fait pas longtemps que je suis diplômée et que je travaille, mais même déjà depuis l'été dernier, on sent qu'il y a vraiment une volonté de la hiérarchie de serrer les vis et de faire des économies de bout de chandelle un petit peu partout. Moi, je suis concernée parce que du coup, je suis sur un poste qui avait été alloué à la base à des lits supplémentaires qui ont été fermés. Parce que là, voilà, la réalité aujourd'hui, c'est de fermer des lits en intra-hospitalier parce que ça coûte trop cher. Parce que il faut garder les patients à l'extérieur le plus possible, donc sur des structures ambulatoires qui elles aussi sont démunies, qui n'ont pas assez de médecins, pas assez de personnel. Et donc voilà, on nous demande de garder les patients en hospitalisation le moins possible. Sauf que pour garder les patients en hospitalisation le moins possible, eh ben, il faut des soignants, il faut des médecins, il faut pouvoir faire des soins lorsque les patients sont accueillis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, il y a une délégation qui est montée, effectivement, voir la direction de l'ARS, voir un petit peu ce qu'elle avait à nous répondre là-dessus. Bon, on ne se fait pas trop d'illusions.
Pascal, peut-être un petit mot pour...
Tu
représentes toute la région.
Bonjour à toutes. Effectivement, là, au niveau de la région Rhône-Alpes, hein, puisqu'on a une coordination CGT à ce niveau-là, le mouvement aujourd'hui, même si tout le monde n'a pas pu se déplacer, est très fortement suivi par les salariés de tous nos établissements publics et privés de psychiatrie, qui sont les parents pauvres des politiques développées aujourd'hui dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, on peut constater qu'aujourd'hui, ce ne sont pas une fatalité ce que nous vivons dans nos structures et nos établissements, puisque nous vivons tous et toutes, que ce soit dans la psychiatrie, dans la santé et dans l'action sociale, comme l'a dit tout à l'heure maire. C'est bien effectivement la conséquence des politiques d'austérité qui sont développées, où il faut faire des économies à outrance, au détriment de nos conditions de travail, mais aussi et surtout de nos conditions d'exercice de nos métiers.
Les conditions de travail se dégradent. Alors nous, on a eu de grosses alertes au niveau de l'hôpital du Vinanquier avec la mobilisation par rapport aux urgences en 2012, 2013, 2011, 2012, 2013. Hein. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'équipes et pas assez de personnes disponibles pour prendre des rendez-vous à court terme. C'est-à-dire qu'en pédopsie, c'est pour ça qu'il y a la mobilisation. Il y a des rendez-vous des fois qui se prennent sur une année, donc c'est pas possible. Ou il y a des équipes trop restreintes qui n'arrivent pas à assumer le rôle qu'elles ont assumé. C'est-à-dire qu'on fait sortir des patients, tout le monde nous le dit, trop vite, pas assez stabilisé. Donc c'est des patients qui rechutent, qui reviennent, etc. Ça engorge tout le circuit. Donc voilà, les psychiatres, les équipes soignantes demandent d'avoir le temps de soigner. Les seules choses qu'on a à attendre, c'est ce qu'on pourra arracher par la lutte. Et nous, on le dit à tout le monde. C'est-à-dire que d'ailleurs, ça aurait été un autre gouvernement, ça aurait été pareil.
Alors, on espère que les gens vont se bouger un peu, parce que là, concrètement, on n'est plus dans des mobilisations un peu politiques et sur une idéologie du soin. Là, c'est concrètement des postes, des salaires, des contrats qui sont en jeu. Donc, et puis notre métier, quoi. Parce que moi, personnellement, j'ai pas fait infirmière pour juste distribuer des cachetons et puis remplir des papiers, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de métier qui est remis en question, y compris dans le somatique, quoi. On voit bien que les infirmiers et les infirmières sont pas dispo pour passer du temps avec les gens qui sont hospitalisés. Il faut y avoir du rendement, être productif, tout ça. Donc voilà, ça fait chier. Et voilà, la santé, comme l'éducation, comme d'autres secteurs de la société, ne devraient pas être soumis à ce genre d'impératifs. Donc voilà, c'est autant une lutte syndicale que politique qui est en train de se jouer. Et voilà, bah, vive la lutte, quoi.
En colère, psychiatrie, 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 en colère, psychiatrie.
Alors que revoilà. Et du coup,
nous sommes de retour.
Non, du coup, voilà, comme on le disait dans le reportage, effectivement, le résultat de la délégation a pas été très satisfaisant. Mais en revanche, demain à 11h, le directeur de l'ARS se rend à Saint-Jean-de-Dieu. Et voilà, du coup, il y a un appel à mobilisation à Saint-Jean-de-Dieu pour montrer que qu'il y a de la solidarité autour de ces questions-là et qu'elles concernent l'ensemble de la société et pas seulement ni les soignants ni les patients. Et du coup, sans transition, ce week-end, des militants du GUD ont ouvert un squat dans le 2e arrondissement de Lyon, rue du Temple. Donc les keufs sont passés, ils n'ont pas expulsé le lieu. Alors nous, quand on ouvre des squats parce que des familles se retrouvent dehors, expulsées d'un parc alors qu'ils grêlent dans Lyon, les expulsions sont très rapides.
Ah bah le lendemain matin, c'est simple. Hein.
Voilà, exactement.
24 heures.
Et donc dans leur communiqué, le GUD explique avoir réquisitionné le bâtiment pour loger des Français et uniquement des Français.
Il existe encore cette saloperie.
Et du coup, alors je vous refais pas l'historique du GUD, hein, mais c'est donc un regroupement qui est particulièrement vivace, qui s'agite beaucoup en ce moment à Lyon. Et ils ont ouvert là ce samedi avec des copains, notamment des anciens copains d'Alexandre Gabriac. Du coup, ils ont ouvert le lieu pour loger juste des Français, mais quand on parcourt un peu leur page Facebook, on se rend compte que pour le moment, ils logent personne. En fait, ils considèrent que les associations comme l'État favoriseraient les étrangers pour ce qui est de l'accès au logement. Donc, on a une petite pensée à tous nos copains qui galèrent pour se loger, précisément parce que, bah, par exemple, ils sont en situation irrégulière, donc exclus de l'intégralité des dispositifs prévus par l'État pour le logement. Donc voilà, c'est un peu flippant, j'essaie d'aller vite parce qu'on est très à la bourre, c'est un peu flippant parce qu'il s'est passé un truc un peu similaire en Italie à partir de 2003 avec Casa Pound. Casa Pound, c'est un groupe néo-nazi italien qui a commencé par ouvrir des squats à Rome et grâce à cette base arrière, ça leur a permis de prendre pas mal d'ampleur et de réussir à propager leur idéologie fasciste, donc ce qu'ils appellent le fascisme du troisième millénaire, et jusqu'à ce qu'ils présentent même des candidats en 2011 aux élections locales. Donc ça leur a quand même servi de base arrière pour la propagation de leur idéologie nauséabonde. Donc on pense qu'il faut s'organiser tout de suite pour éviter qu'il arrive la même chose ici. D'autant qu'à Lyon, ils sont déjà bien implantés. Ils ont des salles de sport, des bars, des magasins dans tout le Vieux-Lon. Donc ça serait cool qu'ils ne continuent pas de s'implanter plus. D'autant que le 2e arrondissement, donc ils sont du côté de Ainé. C'est pas un arrondissement peuplé de gauchistes. Donc voilà. Et leur page Facebook compte déjà 3000 likes. Donc il faut tout de suite, je pense...
Les défoncer.
Ouais.
Et s'organiser correctement pour le faire.
Ouais. Il est Canu Info du lundi. On va passer au dossier et puis on va dédicacer au FAF le petit morceau de transition.
Tu faisais pas trop la maline déjà à l'usine. Quelque part là-bas en Chine ou aux Philippines, t'avais un peu une drôle de tête, avec dessus quelques bouclettes, la bouche ouverte tout le temps pour satisfaire le client. Qu'elles étaient longues ces heures à l'entrepôt avant d'embarquer sur le cargo, où tu aurais tout le temps de penser à où tout ça te mènerait.
passer sans même être vidé jusqu'à en crever. Finirais-tu avec un monsieur gentil, un peu timide, un peu mal dans sa vie, qui cherche un peu de compagnie.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et c'était un petit extrait d'une chanson de Giedré pour introduire le dossier sur le féminisme. Oui, cette semaine, le Canu Info a décidé de consacrer ce dossier sur le féminisme parce que, tout simplement, évoquer la condition de plus de la moitié de l'humanité n'a pas besoin d'un ordre de jour agendé par un quelconque calendrier officiel. Ce n'est pas la journée de la femme, encore moins la fête des mères. Simplement, on a voulu donner un éclairage sur la situation des femmes et particulièrement la violence faite aux femmes, à la fois localement à Lyon, grâce à des invités ici présentes du CAF, et aussi par une illustration dans d'autres régions du monde, notamment en Colombie. Alors bonsoir les filles du CAF.
Ouais,
ouais, on est nombreuses.
Bonsoir. Alors le CAF, est-ce que vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que ça signifie ?
Alors ça signifie le collectif d'autodéfense d'action féministe.
Et quelle est l'origine du collectif ?
Eh bien l'origine, c'est lié à un gros merdier autour d'une personne, d'un agresseur, d'un violeur.
B.
Et donc il y a eu une première réunion avec une collecte, on va dire, de témoignages où B était impliqué. Et puis aussi, il y a eu d'autres histoires qui ont été en écho. Il y avait aussi des B', des C, des D, etc. Enfin bref, tout un tas d'agresseurs et de témoignages. Et en fait, on est parti du constat qu'on manquait de moyens d'organisation, de défense, d'auto-formation, de riposte face aux viols, aux agressions sexuelles. Et qu'on avait donc, du coup, on était face à cette nécessité de s'organiser. En fait, on est aussi parti du constat qu'il y a 90% des cas de viol, dans les 90% des cas de viol, c'est la victime connaissait l'agresseur. Donc en gros, ton agresseur, c'est une personne de ton entourage. C'est ton mec, ton coloc, le copain qui vient dormir chez toi pour des pannes, enfin bref. Et c'est, du coup, on a créé ce collectif qui regroupe autant des militantes de différents orgas de la gauche radicale.
Lyonnaise.
Et des meufs qui sont pas forcément organisées, mais qui se retrouvent dans ces idées militantes.
Et ça date de quand, du coup ?
Ça date d'octobre dernier, 2016, à peu près.
Et ce que t'as pas précisé, c'est que donc, cette histoire qui vous a mobilisé au départ, c'était au sein du milieu militant.
Voilà, donc j'ai pas précisé bien l'histoire. Donc
c'est pas spécialement pour définir la personne en question, mais c'est... C'est intéressant de voir que c'est au sein d'un milieu dont on peut partager les valeurs. Et
voilà,
tout ça,
c'était au sein d'une organisation militante. Il a lui-même écrit une lettre d'aveu pour essayer de faire passer son statut de coupable à victime, en fait. Mais on le dit clairement, on l'a exclu de cette organisation militante.
Et de l'intégralité de nos lieux de militants dans lesquels on se retrouve. Voilà.
Oui, et également dans les lieux plus culturels, les lieux de soirées comme les squats, tout le réseau en fait lyonnais de la gauche radicale.
Il peut aller au squat du Gut quand même, non?
Je pense qu'il sera bienvenu là-bas.
Il peut y aller, ouais.
Et quelle est votre perception sur la condition des femmes dans le milieu militant?
Bah, disons que... Ouais, en fait, bon, je fais aussi partie du CAF, au cas où ce serait reconnu. Du coup, non, voilà, la question, le milieu militant, parce que les questions féministes sont censées être déjà débattues en amont au sein de nos organisations, ou bien même, effectivement, dans les soirées qui sont censées être safe, protéger les meufs d'éventuels agresseurs. On a tendance, en fait, à, au contraire, vachement invisibiliser tous les comportements sexistes et les différentes agressions, précisément parce qu'il y a un discours qui accompagne ces agressions. Et par exemple, B, l'agresseur qui nous a permis de nous mobiliser, il était capable de développer un argumentaire féministe tout à fait efficace et qui, en fait, le rendait encore plus dangereux. Et je crois que la nécessité du coup de faire réapparaître ces questions-là de manière visible au sein du milieu militant, pour nous c'était indispensable, parce que derrière ces discours-là se cachaient parfois les comportements les plus sexistes et les violences sexistes les pires, quoi.
En gros, le milieu militant, c'est comme par tous les autres milieux dans le patriarcat, voire pire.
C'est plus sûr. Pire
parce qu'on se méfie moins, ouais, peut-être.
Voilà. Okay. Et vas-y, alors du coup, tu veux expliquer ce que vous faites au sein du CAF ?
Eh bien, on se rassemble. Eh bien, oui, on a déjà essayé de créer un espace de rassemblement et de réunion pour que les personnes puissent témoigner, pour que c'est pas, en fait, pour éviter l'exclusion et surtout qu'une personne qui a été victime d'une agression se sente seule. Parce que de confronter les témoignages, on se dit, putain, en fait, ouais, ça arrive, quoi. Et puis, il va falloir réagir, en fait. Donc, il y a déjà cet espace super important. Puis, tu veux réagir.
Oui, je pense qu'un peu comme dans pas mal de milieux, il y a sûrement des mecs qui sont considérés un peu comme des mecs ressources. Et quand ils sont accusés de... Mais c'est comme, par exemple, les acteurs super connus ou les gens comme ça qui sont accusés de viol et d'agression sexuelle. Et en fait, personne ne veut l'admettre ou écouter la parole de leurs victimes parce que on veut pas admettre que machin qui est trop fort pour intervenir en AG ou faire je sais pas quoi puisse par ailleurs être un connard agresseur. Et donc c'est très important de pouvoir se soutenir entre meufs là-dessus. Se dire que quand une ou plus, et encore plus quand plusieurs filles dénoncent quelqu'un, il n'y a pas à remettre sa parole en question et qu'il y a à être solidaire pour l'aider, pour dénoncer si elle le souhaite et pour condamner le mec d'une manière ou d'une autre.
Du coup, c'est important d'être entre meufs, tu disais ? C'est-à-dire que c'est non mix pour reprendre les reportages de tout à l'heure.
N'en déplaise à la LICRA.
Oui, c'est assez évident que, de toute façon, ces témoignages-là et ces paroles-là sur les agressions, ils ne vont pas émerger dans un contexte où il y a des hommes qui sont des potentiels agresseurs. Désolée de le dire comme ça, parce que ça a été reproché sur des textes. Mais en fait, vu qu'effectivement, 90% de nos... entourage masculin, comme on le disait, c'est pas 90% de notre entourage masculin, mais 90% des agressions sont le fait de notre entourage, ça fait quand même beaucoup de monde, quoi, en fait. Et du coup, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de discuter de tout ça entre meufs qu'avec un homme dans l'assistance.
Et puis, de la même manière qu'on n'appelle pas nos patrons quand on organise des AG de grévistes dans nos boîtes, en fait, on ne va pas appeler nos oppresseurs à venir nous donner des indications sur les outils qu'on doit utiliser pour les combattre. Et donc, on ne va pas s'organiser avec les mecs pour ce qui est de se défendre immédiatement de leurs attaques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être solidaires, et on espère qu'ils le sont et qu'ils le seront de plus en plus.
Et du coup, concrètement, vous avez des lieux et des jours d'accueil ?
Alors, on fait une permanence tous les 3 du mois, donc le 3... Juin, le 3 juillet, le 3 juin, qui est samedi, qui va venir, là. Et c'est donc de 17h à 19h.
Et pour l'adresse, il faut envoyer un mail à collectif-autodéfense-action-féministe@protonmail.com. Je le redis.
Ouais.
Collectif tiré.
C'est point, attention, c'est parce que points. C'est point, ouais. Collectif, point.
Ah bon ? Non, c'est des tirés.
C'est des tirés, ouais.
C'est détiré.
Tiré du 6, je tiens à préciser.
Vous avez peut-être une page Facebook, non ?
Et on a une page Facebook qui s'appelle Collectif d'autodéfense et d'action féministe Lyon.
Et l'adresse ?
Collectif d'autodéfense et d'action féministe Lyon.
Sur Facebook, mais tu connais pas.
C'est un truc bleu.
On a un Tumblr.
On a un Tumblr.
Un Tumblr.
Un Tumblr, mais je sais pas ce que c'est. Il vient d'être créé, et donc le but, ça serait de récolter des témoignages un peu locaux, et c'est un peu un projet en cours d'élaboration. Donc peut-être, mais oui, c'est pour récolter des témoignages et les publier. Parce qu'un des buts, c'est peut-être aussi de faire réfléchir pas seulement les filles, enfin pas d'aider seulement les filles, mais aussi que les hommes se mettent en face de et déconstruisent tout un tas de comportements qui peuvent avoir lieu.
Juste, je rajoute, je suis désolée. Sur Rébellion, du coup, on a publié la lettre AB et également la présentation du CAF. Et dedans, il y a aussi une petite brochure qui dit, je ne sais plus comment elle s'appelle cette brochure, mais que je vous conseille d'aller voir.
Pour une fois, j'ai dit non.
Putain, merci. Et du coup, je vous conseille d'aller cliquer dessus parce qu'elle est très intéressante.
Ok, bah merci. Et pour faire écho à ce combat féministe local, on est allé rencontrer... les chanteuses du groupe, chanteuses et musiciennes du groupe Valientes Gracias, qui font de la cumbia féministe. Et oui, ça existe. Elles sont passées à Lyon il y a 15 jours à l'occasion du festival Les Mutineries. Et elles ont témoigné de la situation des femmes en Colombie. Et c'est ce qu'elles racontent dans le reportage qui va suivre. Et de comment elles en sont venues à faire de la cumbia féministe.
Je pense que je t'apprends rien si je te dis que la société colombienne est très inégale, comme un peu c'est le cas partout dans le monde, vis-à-vis des femmes. Et après, il y a des problématiques peut-être un peu plus spécifiques, comme les féminicides, qui touchent très fortement la Colombie, et où c'est vraiment des... Enfin, tu vois, avec le Mexique, on bat tous les records des féminicides. C'est-à-dire, c'est souvent suite à des violences familiales. Mais il y a aussi la utilisation du corps de la femme comme arme de guerre. Parce que bon, la Colombie est en train de vivre un peu un moment historique avec la signature des accords de paix. Mais on a vécu une guerre pendant 60 ans. Donc tout ça a eu des répercussions évidemment, notamment sur la vie des femmes à la campagne, où on a utilisé leur corps comme butin de guerre à travers des viols, mais aussi d'assassinats. Ensuite, c'est une société très conservatrice, où donc les femmes ont une place bien à l'écart de la prise de parole publique, etc. Où la religion catholique a eu beaucoup de poids dans cette... manière de traiter les femmes, de les exclure des champs publics et politiques. Paris, disons nouvelle arrivante en France, je faisais partie des groupes de musique latino-américaine ou caribéenne, et j'avais bien mon rôle dans les groupes où je chantais, donc de temps en temps. Donc j'étais la chanteuse ou la choriste. Je devais m'habiller comme les gens attendaient qu'une chanteuse de musique latino s'habille, c'est-à-dire j'arrivais à mon petit concert avec ma jupe, et je mettais un petit peu de rouge à lèvres, puis j'ai détaché mes cheveux pour faire les chœurs de cette musique très dansante, très festive, mais qui en fait véhicule toujours des messages qui sont assez machos, notamment parce que ce sont des musiques écrites pratiquement exclusivement par des hommes, donc ça parle toujours des thèmes des mecs et de la vision des mecs sur des sujets finalement assez récurrents. Ça va être toujours l'amour, de comment on séduit une femme, de pourquoi on va aller vers cette femme, parce qu'elle bouge bien les hanches, parce qu'elle s'habille bien. Mon passage donc au féminisme, pour moi, s'est fait tout naturellement, au moment où je me suis vraiment questionnée par rapport à ce rôle que je jouais dans les groupes. J'ai vu que il y avait un truc un peu bizarre là, il n'y avait que des mecs là dans l'orchestre qui jouaient. Et moi, bon, j'avais mon rôle bien précis. Donc c'était assez gênant, quoi, à un moment donné. Et j'ai voulu, et les choses se sont données de manière à ce que je puisse, avec un groupe de copines, rompre avec ce cliché et se mettre au tambour et aux instruments et à faire de la musique entre nous. Changer ces paroles pour parler d'autre chose que je voudrais avoir ma femme attachée à une corde au bout de ma chaise pour qu'elle soit tout le temps là et ne s'en aille pas. Enfin, tu vois, des trucs vraiment quand tu penses à toutes les paroles des chansons que tu connais et que tu chantonnes, tu sais, parce que quand tu danses, t'es là à chanter à fond. Si tu t'arrêtes à réfléchir un moment, tu te rends compte que il y a du lourd, quoi. Il y a du lourd là-dedans. Ah ouais, c'est ça les messages de ces chansons-là. Bah disons, après ça m'étonne pas que la situation des femmes dans un pays comme la Colombie soit vraiment encore bien, enfin très très compliquée.
Et maintenant, l'agenda. Alors, tout d'abord, en ce moment même, manifestation au terreau par le collectif CISLD en soutien au peuple syrien pour protester contre la visite de Poutine en France. Donc, si vous n'êtes pas à votre poste de radio, descendez au terreau. Demain matin, mardi 30 à 11h, comme on le disait tout à l'heure, visite du directeur de l'ARS devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Réservez-lui un bon accueil. Et demain soir à 20h à la Maison des Passages, on signale la lecture en soutien à deux écrivains turcs, Asli Erdogan, qui n'a rien à voir avec l'autre Erdogan, on m'a expliqué ça, et Pinar Selek par le théâtre féministe.
Le TEF.
Voilà, et pour
Tant qu'on y est avec le CAF, donc samedi 3 juin, on rappelle à 17h la permanence du collectif d'action féministe.
Et à moyen terme, le 5 juin, c'est Révolution, foot et pétanque, place Raspail et Gros Barbac, Mazagran. Tout ça pour préparer la formidable journée du 19 juin où le Front Social essaiera de mobiliser les troupes pour faire barrage au capitalisme rampant qui a pris la forme de Macron.
Et dont on parlera la semaine prochaine.
Et pour finir sur les femmes, vendredi 9 juin à 19h au Canular, il y a une soirée en soutien aux femmes marocaines pour l'émancipation avec la projection d'un documentaire Casa Textile.
Ouais.
Yep.
Et à lundi prochain.
Salut.
Très content de vous avoir. Allez, salut.
Vous êtes impressionnant sur lui.
Ça nous arrive.